À Dans le champ lexical, l'émission que vous êtes en train d'écouter, qui commence à l'instant, d'habitude, on commence avec une anecdote un peu amusante ou avec un fait un peu fascinant sur le mot qui est le thème de la semaine. Mais cette semaine, notre problème, c'est que le mot, c'est mort.
Et c'est pas très jojo, Mathieu.
Non, c'est pas chaise, c'est pas Tupperware, c'est pas... c'est mort. Et on s'est vraiment demandé toute la semaine, et même la semaine d'avant, comment on allait partir cette émission-là, puis comment on allait même rouler cette émission-là, parce que si on la fait sans reconnaître que le mot mort est un mot pesant, un mot plein de sens, j'avais un peu l'impression de dire à tous les gens que je connais qui vont mourir, ou à ceux que je connaissais et qui sont déjà morts, que leur disparition ne me fait rien. Une première demi-heure un peu plus sobre, allons-y pour le mot sobre, et la deuxième moitié, on verra rendu là.
Et puis, comme on avait un certain malaise, on ne savait pas trop comment aborder le mot, on s'est dit que de tous les temps, de toute façon, les meilleurs pour aborder la mort étaient les artistes. Donc, on a fait appel à Lisanne Rault-Leblanc. Bonjour, Lisanne.
Bonjour.
Pour nous lire un poème. Et tu as choisi, en fait, pour nous lire différents poèmes tout au long de l'émission. Et tu as choisi pour commencer un poème de Ronsard.
Oui, j'ai choisi Ronsard parce que c'est un poète extrêmement connu, extrêmement reconnu, poète français de la Renaissance. Et puis, le poème que j'ai choisi, il est tiré de Dernier vers, qui était un recueil qui a été publié de façon posthume. Donc déjà, on est dans le thème. Et ensuite, il a été écrit alors que Ronsard souffrait d'une maladie incurable. Et donc, il savait que ses jours étaient comptés. Donc, il y a une conscience de la mort assez intéressante dans ce poème-là qui s'appelle « Je n'ai plus que les os ». Je n'ai plus que les os, un squelette je semble, décharné, dénervé, démusclé, dépulpé, que le trait de la mort sans pardon a frappé, je n'ose voir mes bras que de peur je ne tremble. Apollon et son fils, deux grands maîtres ensemble, ne me sauraient guérir, leur métier m'a trompé. Adieu, plaisant soleil, mon œil est étoupé, mon corps s'en va descendre où tout se désassemble. Quel ami me voyant en ce point dépouillé ne remporte au logis un œil triste et mouillé, me consolant au lit et me baisant la face, en essuyant mes yeux par la mort endormie. Adieu, chers compagnons, adieu, mes chers amis. Je m'en vais le premier, vous préparez la place.
Merci.
Lorsqu'on réfléchit à la peine de mort, on peut partir de plusieurs points de départ. On peut partir du système qu'on appelle vindicatoire, c'est-à-dire la vengeance. Ce qui arrive avec la fin du Moyen Âge, c'est que l'État royal, là je vous parle évidemment de l'Europe occidentale, France, Angleterre, le monde allemand, où les États commencent à se moderniser, à se bureaucratiser, où un système judiciaire se met lentement en place. Il se met en place pourquoi ? Pour remplacer progressivement le système de vengeance qui se réduit à une guerre privée entre victimes et criminels. Et l'État royal cherche, si vous voulez, à se faire l'arbitre, à remplacer le vengeur et à être au-dessus des conflits pour être le seul arbitre de la résolution des conflits. C'est donc dire qu'à partir du 14e, 15e siècle, généralement, on considère qu'on entre dans un système judiciaire non pas moderne, mais un système judiciaire renforcé où là, les lois, inspirées bien entendu du droit romain qu'on a redécouvert au 13e, 14e siècle, la justice se fait plus, plus forte, elle souhaite se faire plus forte, elle souhaite remplacer, elle souhaite détenir le monopole de la violence légitime, être la seule capable de tuer légalement. Pascal Bastien, professeur d'histoire européenne du 17e et 18e siècle à l'Université du Québec à Montréal. aucune difficulté à penser qu'il y a des crimes très sévèrement punis à la fin du Moyen Âge qui ne sont plus aujourd'hui. D'une façon générale, le vol est condamnable par la peine capitale, le meurtre aussi. Le viol, selon les textes de loi, est condamnable à la mort. Mais en réalité, en pratique, les magistrats ne poursuivent pratiquement jamais les violeurs. Le blasphème peut aussi mener à la mort. Ce n'est pas uniquement des injures, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui se fait mal et qui prononce les jurons que l'on connaît va recevoir peut-être une amende, mais ne sera pas mené au bûcher. Mais celui qui blasphème, c'est-à-dire qui remet en question la virginité de la Mère de Dieu ou qui conteste, si vous voulez, des dogmes de la croyance, peut être conduit au bûcher. Et on peut multiplier toute une série de crimes qui nous paraissent étranges, dont peut-être le plus étrange aujourd'hui, c'est le suicide. Le suicide, lorsqu'on se manque, peut nous amener quand même à la pendaison. Parce que se suicider ou tenter de se suicider, c'est non seulement un crime contre soi, donc on est assassin de soi-même, mais c'est aussi un crime contre Dieu, puisque c'est nous qui voulons décider de la fin de notre vie, alors que c'est une décision de Dieu. Donc même le suicide est passible de la mort à la fin du Moyen Âge et jusqu'à la fin du 18e siècle. C'est ce qu'on appelle le siècle des Lumières, le 18e siècle, qui va profondément renverser l'ordre des choses.
En quoi?
C'est-à-dire que c'est au cours du 18e siècle où on remet de plus en plus fréquemment en cause la présence de la divinité dans l'ordre du judiciaire. On considère que la justice doit être un instrument d'utilité publique et non pas un instrument moral. Et on va se mettre donc à critiquer non seulement la procédure, la torture, qu'on considère désormais comme inutile, et même comme, non seulement comme inutile, mais comme nuisible. On va essayer de retirer un peu de pouvoir des magistrats qui ont tous les pouvoirs, qui sont les seuls capables de juger de la force d'une preuve et de ce que mérite un crime par rapport à la peine qui lui est due. Donc on va tâcher, et ça ne sera pas facile, hein, il faut la Révolution française en France, il faut pour l'Europe les invasions des armées napoléoniennes et une bonne trentaine d'années avant que le système judiciaire fasse des essais et des erreurs, se distance de l'ancien droit, réinvente un nouveau droit, revienne sur des antécédents et des traditions, puis ensuite innove. Donc ça prend une bonne trentaine d'années de façon à ce que on apprend ou on a un nouveau système judiciaire dans les années 1830-1840 en Europe. Mais il reste que, essentiellement, on cherche à rétablir dans la justice, c'est du moins le discours qu'ont les philosophes à l'époque, à rétablir le droit de l'individu.
Parlons technique. Bon, on a parlé du bûcher, il y a le beffroi. Enfin, quelles sont les techniques de mise à mort?
Là encore, de la fin du Moyen Âge jusqu'au 18e siècle, il y a des variations. La guillotine est une invention de la toute fin du 18e siècle. Elle est considérée comme un instrument philanthropique, un instrument de mort sans douleur. Et ce n'est qu'en 1792 qu'elle apparaît dans le système judiciaire. Et elle va disparaître en France qu'il y a une trentaine d'années. En 1981, lorsque la France abolit la peine capitale, c'était encore la guillotine qui était effective. À la fin du Moyen Âge, donc on parle encore 13e, 14e siècle, on a des supplices considérés comme barbares par les gens un siècle plus tard, comme d'être bouillis vifs. Les faux-monnayeurs peuvent être bouillis. Il y a des crimes extrêmement rare, mais des crimes politiques, donc l'attentat contre la vie d'un prince, on pouvait être mené à être écorché vif. Et ça, ce sont des choses qui disparaissent au nom de la rationalité, hein, et au nom d'une certaine civilisation, disparaissent à la toute fin du Moyen Âge et au XVIe siècle, on n'a plus ce type de supplice. On a généralement, il ne faut pas que je me trompe, on reste du XVIe au XVIIIe siècle avec 5 peines capitales. Et là, c'est, en règle générale, je vous donne le cas tiré du droit français, mais on trouve ça un peu partout en Europe occidentale. La pendaison, la décapitation, qui est en règle générale réservée pour la noblesse, puisque c'est une peine noble. En Allemagne, c'est différent. Ce sont les assassins qui méritent la décapitation et les voleurs qui méritent la pendaison, considérant que l'assassin est plus courageux que le voleur. Mais donc, pendaison, décapitation, le bûcher, on l'a dit tout à l'heure, la roue, ce qu'on appelle la roue, c'est-à-dire d'être en Allemagne, c'est avec une roue de carrosse, en France, c'est avec une barre de fer, on a les membres brisés, vifs ou lorsqu'on a été préalablement étranglé, mais l'idée c'est de briser les os du corps, parce que n'oublions pas que la peine capitale n'est pas seulement destinée aux criminels, elle est destinée à un public, c'est un spectacle. Donc il y a aussi tout un artifice, toute une mise en scène qui est importante. Donc on a le supplice de la roue, et comme dernière peine...
La roue, qu'est-ce que fait la roue?
En fait, c'est ça. En Allemagne, le bourreau utilise une roue de carrosse qu'il tient par les essieux et frappe les membres du condamné, qui est couché sur 4 ou 5 billots, de manière à ce qu'on puisse briser les membres. Donc on ne sait pas si le supplice prend son nom de cela, ou en France, donc on brise avec une barre de fer les membres, et ensuite on attache le corps, non pas démembré, mais brisé, sur une roue de carrosse, que l'on suspend sur un gigantesque poteau, et là, encore pour le spectacle, pour que ceux qui approchent de la ville puissent bien voir que ici on rend justice, ici les criminels sont sévèrement punis. Et le dernier type de peine, qui est le plus rare, en France, il n'est appliqué que 2 fois en 2 siècles, et c'est François Ravaillac et Robert Damiens qui le souffrent, c'est ce qu'on appelle l'écartèlement, c'est-à-dire toute une multitude de supplices, mais qui se termine avec le démembrement. Les membres, les bras et les jambes sont attachés à 4 chevaux, et les chevaux partent dans 4 directions différentes, et les membres doivent être arrachés. Donc ça, c'est pour le crime. Il n'y a qu'un seul crime qui mérite cette peine, c'est quand on a essayé de tuer le roi. Donc le crime le plus épouvantable mérite la peine la plus épouvantable.
Est-ce que moi j'aurais pu être bourreau?
Je ne crois pas. D'abord il faut être un homme, d'une part. Là encore, le métier est différent selon le pays de l'Europe. Hein. Le bourreau anglais n'est pas du tout le bourreau français. Le bourreau français est un officier du roi, c'est-à-dire qu'il doit, comme toutes les charges, comme tous les fonctionnaires français sous l'Ancien Régime, il doit acheter sa charge. C'est-à-dire que c'est un officier qui a des privilèges fiscaux, mais qui doit aussi acheter le droit de travailler. S'il y a des règles, c'est qu'il n'y a pas d'école de bourreau, mais en règle générale, on essaie de recruter des gens qui ont une familiarité au métier, raison pour laquelle, à partir du 16e siècle, partout en Europe continentale, en Angleterre c'est différent, mais partout en Europe continentale, les bourreaux sont fils ou neveux de bourreaux. Et donc ce sont des dynasties familiales parce que il faut quand même... il est assez facile de pendre quelqu'un, mais c'est pas facile de décapiter quelqu'un. Et rater son coup, c'est tout l'État qui est entaché par une maladresse de la sorte. Donc les bourreaux ont une responsabilité de professionnalisme qui non seulement est assez savamment gardée, les juges souhaitent qu'ils soient professionnels, mais si on ne l'est pas, ben la foule peut massacrer le bourreau, ou la justice peut même condamner à mort un bourreau qui aurait manqué une condamnation capitale.
Salut! Tu me reconnais-tu? Toi pis ton hostie de gang de plumée à Ottawa m'ont fait chier, calice. Quand tu vas regarder cette cassette-là, là, dis-toi que c'est peut-être la dernière affaire que tu vas faire dans ta vie. Garde la bain ta TV. Pis pendant que tu regardes, dis-toi que moi je suis en train de monter les marches du Parlement. As-tu peur? Oh, yes. Si t'as peur, là, dis-toi que c'est rien comparé de ce qui t'attend, mon homme. J'avais pas l'intention de te descendre sans que tu t'en aperçois. Non, 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 tu vas me voir, puis de proche à part de ça. Bien plus proche que là. Moi, plus rien à part, hein. Tu vas avoir raison de dire que je suis dangereux. Je cherchais même pas à me sauver, mais on m'attend ici, mon sale. Puis t'as pas fini d'entendre parler de moi. Tu vois, je suis pas un petit cul du FLQ, mais pas des boîtes à mal m'ont fait sauter. C'est ta tête. C'est ta tête que je vais sauter. Toi pis ton nasty gang de robots. J'ai fini de vivre sur notre dos. Fini de te faire vivre, moi, tabarnak. Là, là, m'a te faire mourir. Oh, casse ça, toi. Dis-toi, là, que t'es assis là-dessus. Tout le temps.
C'était Guy Dorois dans Requiem pour un beau sans cœur, un film de Robert Morin sorti en 1992.
Paysage en deux couleurs sur fond de ciel. Un mort demande à boire. Le puits n'a plus tant d'eau qu'on le croirait. Qui portera réponse au mort? La fontaine, dit mon onde, n'est pas pour lui. Or voilà toutes ses servantes en branle, chacune avec un vase à chacune sa source, pour apaiser la soif du maître, un mort qui demande à boire. Celle-ci cueille au fond du jardin nocturne le pollen suave qui sourd des fleurs. Dans la chaleur qui s'attarde à l'enveloppement de la nuit, elle développe cette chair devant lui. Mais le mort a soif encore et demande à boire. Celle-là cueille par l'argent des prés lunaires les corolles que ferma la fraîcheur du soir. Elle en fait un bouquet bien gonflé, une tendre lourdeur fraîche à la bouche, et s'empresse au maître pour l'offrir. Mais le mort a soif et demande à boire. Alors, la troisième et première des trois sœurs s'empresse elle aussi dans les champs. Pendant que surgit au ciel d'Orient la claire menace de l'aurore, elle ramasse au filet de son tablier d'or les gouttes lumineuses de la rosée matinale, en emplit une coupe et l'offre au maître. Mais il a soif encore et demande à boire. Alors, le matin paraît dans sa gloire et répand comme un vent la lumière sur la vallée. Et le mort pulvérisé, le mort percé de rayons comme une brume, s'évapore et meurt, et son souvenir même a quitté la terre. Paysage en deux couleurs sur fond de ciel, partie 2, par Hector de Saint-Denis-Garneau.
Mourir, ça n'est rien! Mourir, la belle affaire! Mais vieillir, oh, vieillir! Insignifiant au fond d'une tisane entre un médicament et un fruit qui se fane ou terminer sa course la nuit de ses mille ans, vieillard tonitruant, soulevé par quelques femmes, cloué à la grande ourse, cracher sa dernière dent en chantant Amsterdam. Mourir, cela n'est rien, mourir la belle affaire, mais vieillir, oh, oh, vieillir.
Vous savez, moi, j'aime bien parler de la mort pour rigoler, mais sérieusement, je ne sais pas le faire. Je ne pense pas qu'il soit mort, Brel, avec ce qu'il a fait, avec ce qu'il a écrit, avec ses qualités d'homme et ses qualités de... d'écrivain, d'auteur, il n'est pas mort, c'est comme s'il était vivant. Je pense qu'il est plus vivant maintenant que jamais.
Bien sûr, nous eûmes des orages.
Georges Brassens est visiblement ému lorsqu'on l'interviewe peu de temps après la mort de son ami Jacques Brel. Et s'il y a un chanteur qui a flirté avec la mort dans plusieurs de ses chansons, c'est justement celui que Brassens surnommait affectueusement l'abbé Brel. Par exemple, dans sa pièce « Vieillir », il est question de plein de façons de mourir qui sont, au fond, beaucoup plus agréables que de prendre de l'âge. On pense à mourir de rire, à mourir en baisant entre les seins d'une grosse, ou à mourir en monument, sous les honneurs. Dans « La chanson des vieux amants », Jacques Brel évoque un vieux couple qui se remémore les bons comme les mauvais moments, quelque temps avant de se quitter pour de bon. Mais dans sa chanson « Le dernier repas », écrite en 1964, le Belge nous fait la liste de tous ceux et tous ceux qu'il souhaite voir à l'occasion de, on s'en doute, son ultime repas avant de quitter ce monde. Et comme dernière image, très symbolique et très forte, le chanteur nous raconte qu'il aimerait bien s'asseoir seul comme un roi et que, dans sa pipe, il va choisir de brûler tous ses souvenirs d'enfance, ses rêves inachevés et ses restes d'espérance. Gageons que c'est ce qu'il a fait quelques heures avant sa mort, le 9 octobre 1978.
Et je ne garderai pour habiller mon âme que l'idée d'un rosier et qu'un prénom de femme. Puis je regarderai le haut de ma colline qui danse, qui se devine, qui finit par sombrer. Et dans l'odeur des fleurs qui bientôt s'éteindra, je sais que j'aurai peur une dernière fois.
Je pense à la mort. Mais moi, je veux pas connaître la maison où je vais mourir. Ça me fait chier. Je veux pas savoir. Moi, je voudrais être brûlé d'abord. Et puis qu'on mette les cendres. T'as pas le droit. Tu peux pas te faire brûler et mettre les cendres où tu veux. C'est tout même énorme. Non? On met les ordures, la merde partout, on va mettre mes cendres partout aussi. C'est la différence entre mes prochaines cendres, la merde et les ordures. C'est pareil.
En entrevue en 1976, Léo Ferré parle de la mort idéale à ses yeux. On ne sait pas si son souhait a été exaucé lorsqu'il est décédé en 1993 à l'âge de 76 ans. Mais on sait que ça reste un artiste qui, à plusieurs reprises, a chanté la mort. L'ironie dans tout ça, c'est qu'un de ses plus grands succès porte justement le titre de « Ne chantez pas la mort ». Et pourquoi pas? Ben, on l'apprend dès le départ de ce texte de Jean-Roger Caussimon. C'est un sujet morbide et puis le mot à lui seul jette un froid. Le texte va même jusqu'à le qualifier de « sujet tabou pour poète maudit ».
Requiem de Mozart, une onde dans ce macabre. Pauvre valse musette au musée de Saint-Saëns. La mort, c'est la beauté, c'est l'éclair vif du sabre, c'est le doux pain total. L'esprit et des sens.
Paul Fort disait, il faut nous aimer sur terre, il faut nous aimer vivants, ne crois pas au cimetière, il faut nous aimer avant.
L'auteur, compositeur, interprète Georges Brassens a écrit quelques chansons sur la mort et ses variations. Le sujet de la mort fait d'ailleurs son apparition dès le premier disque du Moustachu avec la pièce « Le Fossoyeur ». Le fossoyeur du titre, un homme dont la tâche est de creuser les trous des gens qui viennent de décéder, n'arrive pas à se faire à son funeste emploi. Mais si l'on ne mourait plus, il crèverait de faim sur son talus.
Les vivants croient que je n'ai pas de remords à gagner mon pain sur le dos des morts. Mais ça me tracasse et d'ailleurs, je les enterre à contre-cœur, puis un pauvre fossoyeur.
Mais dans sa chanson « Trompe la mort », le français essaie de déjouer la grande faucheuse ou, comme il dit, de couper court à l'avance du temps qui court et de tout embrouiller dans le fatidique sablier. Et comment il y parvient au juste? ben il décide de porter, par exemple, une perruque blanche sous ses cheveux encore noirs, ou bien de marcher un peu plus lentement que d'habitude, alors qu'il se trouve encore en pleine forme. Comme il le chante, c'est rien que de la poudre aux yeux, de la comédie, de la parodie. Mais difficile à dire si tout ça était bien la vérité pour Brassens, quand il a écrit cette chanson en 1976, étant donné qu'il est mort 5 ans plus tard, en 1981, à l'âge de 60 ans. On va lui laisser le bénéfice du doute en se disant que, somme toute, c'était un sacré gaillard, toujours actif, toujours paillard. Exactement comme dans sa chanson.
Avec cette neige à foison qui coiffe, coiffe ma toison, on peut me croire à vue de nez blanchi sous le harnais. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est rien que de la poudre aux yeux, c'est rien que de la comédie, que de la parodie. C'est pour tenter de couper court à l'avance du temps qui court, de persuader ce vieux goujat que tout le mal est fait déjà. Mais dessous la perruque j'ai mes vrais cheveux couleur de jais. C'est pas demain la veille, bon Dieu, de mes adieux. Et si j'ai l'air moins guilleré, moins solide sur mes jarrets, si je chemine avec lenteur d'un train de sénateur, n'allez pas dire il est perclu, n'allez pas dire il n'en peut plus, c'est rien que de la comédie, que de la parodie. Histoire d'endormir le temps, calculateur impénitent, de tout brouiller, tout embrouiller dans le fatidique sablier, en fait à l'envers du décor, comme à 20 ans je trotte encore. C'est pas demain la veille, bon Dieu, de mes adieux. Et si jamais au cimetière un de ces quatre on porte en terre, me ressemblant à s'y tromper, un genre de Maccabée, n'allez pas noyer le souffleur en lâchant la bande à vos pleurs. Ce sera rien que comédie, rien que fausse sortie. Et puis coup de théâtre quand le temps aura levé le camp, estimant que la farce est jouée, moi tout heureux, tout enjoué, je m'exhumerai du caveau pour saluer sous les bravos. C'est pas demain la veille, bon Dieu, de mes adieux.
Avec la mort, il y a le deuil, ça va ensemble. En fait, il faut que ça aille ensemble, parce que faire son deuil, c'est ce qui permet de passer à autre chose. Et pour aider au deuil, il y a des rituels. Nos morts, on les expose, on les veille et on les enterre.
Ici, à Dans le champ lexical, pour passer à la deuxième moitié de l'émission, on va faire la même chose avec le sacré de la mort. On va prendre le sacré de la mort, l'exposer et puis on va l'enterrer. Puis après, pour le reste de l'émission, on va prendre la mort avec un petit peu plus de sourire.
Et enterrer le sacré de la mort, on va faire ça avec Nadine Mathurin. Bonjour Nadine.
Salut.
Nadine, t'es probablement la personne au monde qui arrive le plus d'anecdotes impossibles. Et tu es la preuve vivante que, qu'un enterrement, ça peut virer vraiment mal.
Effectivement, c'était il y a quelque temps à l'enterrement de Roger, le frère de ma grand-mère, et de sa femme Lucienne.
Les deux en même temps?
Oui, les deux en même temps. Roger est d'abord rentré à l'hôpital pour des problèmes respiratoires. On lui a appris qu'il avait le cancer depuis au moins 12 ans. Mais comme à 89 ans, les cellules cancéreuses sont lentes à se reproduire, en marchette, sans Viagra, on n'a jamais cru bon le traiter. À ce point-ci de sa vie, il n'était plus assez fort pour subir quelque traitement que ce soit de toute façon. Ses cellules noires allaient donc gagner la bataille et remporter le corps de la victoire.
T'es donc ben deep.
Hey, attends le reste.
Oh.
Toute la famille allait lui rendre visite à l'hôpital. Une semaine avant l'enterrement, ses enfants prenaient la relève pour rester auprès de lui au cas où, tu sais. Tout le monde est venu à la chambre 312, même ma grand-mère de 97 ans. Elle avait traîné plein de vieilles photos pour rappeler à son frère leurs souvenirs de jeunesse, leurs moments heureux, les mariages, les fêtes, les chants autour du feu au chalet. Tout le monde est venu à la chambre 312, sauf une personne, Lucienne, sa femme. Lucienne, elle n'aimait pas sortir. Elle appelait quand même à tous les jours, sauf une fois, un lundi. Le lundi qu'on l'a retrouvée étendue sur le plancher de la cuisine. Elle est décédée d'une crise cardiaque en préparant sa fameuse soupe aux choux, la soupe préférée de Roger. Comme on ne voulait pas l'achever tout de suite, personne n'a dit à Roger la terrible nouvelle. Il est parti la rejoindre 6 jours plus tard. Il a dû être surpris de la voir là avant lui, bien qu'au fond, il devait le savoir déjà. Après toute cette histoire touchante, il y a eu l'enterrement, leurs funérailles. Comme dans la série télé américaine Six Feet Under, après le drame vient toujours la comédie. Dès le début de la cérémonie, le prêtre était bizarre. Il était confus, parfois complètement perdu. Le lutrin sur lequel il s'accotait était tellement instable qu'on entendait toujours un bruit sourd à chaque fois qu'il levait les mains en l'air, alors que le pied retombait sur le marbre du plancher de l'église. Entre les sermons d'une platitude redoutable du curé, le son de la pluie sur les vitraux était ponctué par des morceaux d'orgue mal ramonnés. Parce qu'il fallait que les tuyaux de l'orgue soient encrassés, là, sinon ils ne pouvaient pas fausser de même. Quand est venu le temps de la communion, le prêtre a pris un morceau de pain qu'il a trempé dans son immense verre de vin. Oui, oui, là, un verre de vin. C'était même pas un vrai calice. Calice! Il a pris une gorgée du sang du Christ, puis une autre, puis une autre, puis une autre, jusqu'à caler le verre de vin au grand complet. Ma sœur m'a regardée, j'ai mimé quelqu'un qui vide le fond du verre avec son doigt. On était partis pour un fou rire de 15 minutes. À la fin de la cérémonie, le curé nous a invités à venir enterrer l'urne commune dans le cimetière à côté. Dehors, il mouille, il pleut, il fait froid. Ma grand-mère s'agrippe à mon bras pour pas glisser sur l'herbe trempée. Et on attend le prêtre. 5, 10, 15 minutes. Les commentaires fusent de partout. « Il s'est perdu dans le cimetière à côté des neiges, ça se peut-tu, il travaille, il cite! » Mais le meilleur commentaire est celui de mon père. « Il est probablement trop saoul pour chauffer son char. » La famille a donc décidé d'enterrer l'urne sans lui, sans flafla religieux, juste entre nous. On a même creusé le trou nous-mêmes. Roger et Lucienne reposent donc maintenant à peu près 2 ou 3 pieds sous terre. En retournant en voiture, on a vu le curé débarquer en titubant de sa voiture au loin, découragé d'avoir manqué le moment crucial de la mise en terre. Évidemment, il n'a pas été invité pour les sandwichs pas de croûte. On a calculé qu'avec 8 bouteilles, on n'avait pas assez de vin de toute façon.
Ben tant pis pour lui.
Mais hein.
Bonne semaine, cette semaine, Sonny Duval. Reçois son bon ami Pierre Lapointe.
Oui.
Qui va nous interpréter une chanson qui traite de la mort, n'est-ce pas, Pierre?
C'est cela. Ça va comme suit. Nous nous promenions dans la forêt. Nous gambadions au gré de nos fantaisies. Lorsque nous aperçûmes un farfadet qui dansait, nous étions morts de rire.
Cette semaine, on parle de la vie après la mort et je dédie entièrement mon Vox Pop aux histoires à dormir debout de Steve.
Moi, j'ai grandi dans une maison hantée. Mes parents, ils pensaient que j'étais le fils du diable, genre, parce que ça partait tout de moi, mais c'était pas de moi que ça partait, c'était de ma chambre. C'est là que... Quand je descendais les escaliers chez nous, je me faisais tout le temps pousser dans le dos, là. Puis j'ai descendu, genre, les escaliers, c'est fait jusqu'à l'âge de 12-13 ans, là, parce que je me faisais pousser. Mais tu sais, je pense que quand on meurt, tu sais, je pense qu'on peut envoyer des signes. Sauf que c'est ça, c'est parce
que
à quelque part, tu sais, quand les fantômes qui hantent du monde, c'est parce que les autres n'ont pas passé de l'autre bord. Là,
c'est ça ton genre,
lui. Je sais pas, c'est quoi qui est de l'autre bord? Tu sais, je pense que quelque chose de l'autre côté, je me dis, hey, tu sais, puis d'un coup, que moi, genre, il n'y a rien pour moi, puis je me retrouve à finir à tape, là, essayer de faire allumer une lumière pour leur dire, genre, comme, est-ce que aidez-moi, genre, je sais pas où je suis, puis de faire mon rêve, tu sais. pour rentrer en contact avec, avec une dame qui a écrit des livres, genre. Puis elle recevait des communications, elle leur écrivait des lettres que c'était leur fils qui écrivait, genre. Puis 22 mois après, son deuxième fils il est décédé de la même chose à 20 ans. C'était vraiment.
Okay,
c'est quelques larmes.
C'est une psychique, cette femme?
Oui, mais là, maintenant qu'elle est connue, qu'elle écrit des livres, elle fait plus de consultations. Je me suis dit, ah, ben, je vais le dire à ma mère, si je la mets à perdre, genre, au moins, l'autre, elle va pouvoir m'écrire une lettre. Ben, là, moi, c'est parce que là, genre, je trouve ça épeurant. Parce que, tu sais, si tu meurs, puis après ça, t'es juste comme là, tu sais, je veux dire, genre, ça donne quoi d'écrire des lettres? Genre,
une fois que t'es mort. Les autres sont juste comme. T'sais, t'as beau mettre toute ton énergie d'esprit, même, pour faire bouger une porte, pour faire claquer un mur, pis eux autres, ils te disent tout le temps, genre, comme, si c'est vraiment toi, refais-les deux fois. Hey, tu viens de me drainer toute l'énergie que j'ai accumulée pendant 10 ans, même, pour faire ce petit craquer la planche, tu plancher. Histoire de même, genre, il y avait une affaire que tu tournais, genre, à minuit, là, à pleine lune, que tu courais autour de la maison, là, 12 fois dans le sens inverse, du lui montre, pis là, il y avait un cercueil qui te courait après, pis tu te pognais, tu crevais, genre. Tu peux pas croire qu'on l'a faite! Tu sais, Jésus-Christ, il a son suaire avec sa face, là. Ben, moi, genre, après cette expérience-là, j'ai eu mon dos détempé dans le drap contour à Mère Claude. Et ça a jamais parti.
Quand vous rencontrez quelqu'un, vous dites je suis taxidermiste. C'est quoi la réaction des gens qui connaissent plus ou moins ça?
Ils sont surpris. Quand ils me connaissent pas, ouais, quand j'ai à me présenter, j'ai l'impression qu'ils s'attendent pas à avoir un petit bout de femme. Fait que ouais, quand tu dis que ton métier, t'as à le répéter deux fois, puis t'as à l'expliquer aussi. Je conduis pas des taxis.
Le taxidermiste est un homme seul, seul, seul. Moi, loin de toi, je suis comme lui, oh mon amour.
Vicky Leblanc n'est pas un homme seul, mais elle est taxidermiste et elle vit de son art à Sainte-Marceline de Kildare. C'est son père qui lui a montré les rudiments de la naturalisation commerciale. Formée pour être infirmière, elle fige aujourd'hui les prises des chasseurs en glorieux trophées de chasse.
C'est quoi les qualités d'un bon taxidermiste?
Pour comprendre l'anatomie beaucoup, il faut respecter ça. Dans le fond, on veut... Il était beau dans la nature, lui, là. Ça prend la dextérité manuelle. Il faut être créatif aussi. Sortir un petit peu des sentiers battus.
Est-ce que c'est comme ça qu'on se distingue sur le marché?
Oui. Ouais,
qu'est-ce qui vous distingue?
Je pense que le fait d'être une femme, ça m'apporte un petit côté plus méticuleux. Si un ours a la bouche ouverte, à ce moment-là, un ours a une bouche ouverte, il est fâché, il est choqué. Donc, le plissage de nez, l'expression des yeux, il n'y a pas les yeux ronds. À ce moment-là, les yeux se baissent, on tombe en amande. Les oreilles vont être couchées aussi. Pour tout concorde, je vais m'arrêter à des détails. C'est ce que mon père me dit. Des fois, il me va travailler, puis lui, ça ne serait pas rendu jusque-là. Pour lui, c'était correct. Moi, ce n'est jamais assez.
Je ne dis pas que je suis un taxidermiste en premier. Je dis toujours que je suis un artiste taxidermiste.
Kate Puxley, 29 ans, est une autre femme dans un monde d'hommes. Elle inclut dans son art la taxidermie depuis 2009. Un tire-à-ton laveur, figé comme en chute libre, décore d'ailleurs la maison de Diane Dufresne.
Je travaille avec les animaux que je trouve, les animaux de déchets. J'utilise les chats, les écureuils, les ratons laveurs, tout ce que je trouve sur les rues de Montréal ou les autoroutes. Avec tous les animaux que je trouve, j'écris... Ça, c'est un livre de les chats trouvés à Montréal. Alors, avec chaque, j'écris c'est où je l'ai trouvé, sur Beaumont, comment il est mort, et les circonstances dont je l'ai trouvé. Alors, mes amis m'avaient appelé, je l'ai trouvé, il n'y avait plus d'œil parce que les fourmis étaient en train de tout manger.
C'est toujours des gens qui t'appellent comme ça? Ou...
De plus en plus, okay. Je demande à tout le monde de me dire s'ils voient quelque chose. C'est drôle parce que maintenant, j'ai plusieurs gens, ma famille, mes amis, qui m'écrivent, qui disent « Oh, hier, j'ai vu un animal mort, j'ai pensé à toi. J'ai vu un renard sur la rue, j'ai pensé à toi. » Alors maintenant, je suis connectée à les animaux morts sur la rue. On va commencer le congélateur, je pense.
Ça marche.
Ouais. Alors,
il y en a beaucoup, c'est toutes des animaux morts.
Oui, ou les parties des animaux morts.
Okay.
Alors ça, c'est une tête de chat. C'est bien d'avoir les crâniums, d'avoir comme référence
okay.
dans le travail. Sinon, ça c'est un caïman. Ça c'est un caïman que quelqu'un m'avait envoyé de la Floride. Les tortues, les oiseaux, les pigeons, ça c'est des serpents.
Oups.
Ça c'est des tortues. C'est un serpent. Un python. Incroyablement beau. No.
On dit plus empaillé, on dit naturalisé.
Oui, parce qu'on n'utilise plus la paille, on utilise des mannequins, et puis je trouve que ça a une connotation péjorative des marchés aux puces, des horreurs qu'on peut voir là-bas. Là. C'est ça, aujourd'hui, non, c'est plus ça la taxidermie.
Parce que les techniques ont changé?
Les techniques ont changé. Les taxidermistes, il y en a des excellents ici au Québec. On a vraiment des vrais bons artistes. Il y a moyen que ce soit esthétique. Il n'y a rien à voir avec ce qu'on retrouve étoile sur le métropolitain. Là. dans les ventes de garage ou des affaires comme ça, ça devrait être illégal. On devrait même pas montrer ça.
Je sais que les gens ont une pensée que les taxidermistes sont en train d'enlever des intestines, le cœur, ce que c'est... vider l'animal comme ça, c'est vraiment juste enlever le peau.
Je me dis que c'est pas pire que d'être bouché. Ils reçoivent des animaux morts, ils travaillent sur des carcasses, puis ils enlèvent la peau. Puis moi, dans le fond, je travaille bien moins avec la viande qu'un boucher. Là. Un coup que la viande est enlevée, j'y touche plus, là, c'est fini. Je travaille avec la peau, tout simplement.
Si t'as un animal qui est tué d'une manière clean, c'est vraiment pas une procédure dégueulasse. C'est comme on avait une chaussette, presque. Maintenant, travailler avec les animaux écrasés, c'est une autre chose. Je crois que j'ai un estomac assez fort. En outre de ça, on oublie que nous, on est fait de muscles, de sang, d'os, de couleurs incroyables. Les couleurs en notre corps, c'est oh, hallucinant, vraiment. C'est un vrai mélange, un mélange de sentiments.
Est-ce que tu dirais que la taxidermie, c'est plus une façon de représenter la mort ou la vie?
On peut pas ignorer le fait que c'est un animal mort. Et c'est comme un défi inutile presque. Tu sais, tous les taxidermistes veulent redonner la vie, redonner la respiration, l'âme de cet animal. Sauf que c'est un animal mort, il n'y a pas d'âme. Et il est complètement... il n'y a pas de mouvement. La vie, c'est mouvement. Alors, pour moi, c'est toujours le mort. Et cette idée aussi de jouer le dieu un petit peu, tu sais, de redonner la vie, c'est spécialement la chasse qu'on va prendre la vie, puis on va redonner la vie. C'est un peu jouer dieu.
Par rapport à l'objet qui est mort, est-ce qu'on veut le rendre le plus vivant possible?
Oui.
Est-ce que c'est ça?
Ouais. Oui, oui. C'est sûr que c'est statique, il ne bouge plus, mais on veut que... C'est comme une photo, on veut figer un moment, puis faire en sorte que, oui, il a l'air vrai. J'ai livré un renard hier, la madame a dit « Mon doigt, il me regarde », puis c'est ça qu'on recherche. Quand les gens me disent « Wow, il a l'air vivant », moi, c'était le plus beau compliment qu'on peut me faire, c'est que j'ai réussi à atteindre l'objectif.
Trophée de chasse, félin figé qui rugit.
Je pense que le mort, c'est le plus grand sujet tabou. J'espère que le rapport de les gens qui ont une interaction avec mon art, j'espère que ça change des choses pour eux, ou même que ça les provoque de au moins penser un petit peu plus sur ce sujet. Mais le premier, c'était un oiseau. Un oiseau avait frappé contre une fenêtre. Je l'ai trouvé dehors. Et là, j'avais vraiment pas des matériaux. Pour les yeux, j'avais des diamants rouges. C'était vraiment... À la fin, c'était un oiseau du diable. C'était horrible. Mais après le cours, le premier animal, c'était un raton laveur. Et je me souviens de la peur que j'avais. J'ai toujours cette peur. Chaque fois que j'approche un animal sur la table, ou j'ai peur. Vraiment, t'es face à la mort. T'es vraiment et à ton propre mort. Je viens de faire un chat, Stripe. C'était un chat de maison. Il y avait tellement de pression parce que moi, j'ai pas connu Stripe. Je savais pas toutes ses caractéristiques. Je me sentais... il y avait trop de pression. J'étais pas vraiment amusante. C'était un stress.
Moi, je vais refaire un castor, je vais refaire un bison, je vais refaire un loup, un coyote. J'ai mes photos de référence. Ça va ressembler à un loup. Mais un chien, un chat, ça fait des années que vous vivez avec, son expression, ses yeux, la manière qu'il se place. Moi, j'ai pas vécu avec, je sais pas. Fait que moi, je veux pas m'embarquer là-dedans.
C'est trop émotif.
C'est trop émotif. Les gens arrivent ici, ils pleurent, ils viennent la chercher, ça pleure encore. Oh, Seigneur, non, moi, je pense que là. Non, puis je trouve que c'est malsain, honnêtement.
Est-ce que t'as des animaux de compagnie?
Oui.
Vivants?
Vivants.
Est-ce que tu les taxidermiserais?
Je crois que je le ferais, oui. Oui. Maintenant, j'ai un chat, Plume. Mais je dois vraiment bien penser comment... Pour moi, l'idée d'avoir un animal, spécialement un animal que j'ai connu avec les yeux ouverts, ça me dérange. Dans la taxidermie, les yeux sont la partie la plus importante. Si un taxidermiste n'a pas bien fait les yeux, tout l'animal est vraiment mort. Mais quand même, c'est pas les... It's not real. The eyes are glass. Et je crois que si je ferais mon chat, je le ferais avec les yeux fermés. Comme dans une position de mort, peut-être.
Donc, je comprends ça, mais que ma chienne meurt. Moi aussi, je vais bien pleurer, je vais avoir beaucoup de peine, mais pas mon chien.
Vous seriez jamais tenté d'en faire
Non. Il n'est pas question. Gardez sa médaille, puis c'est tout.
J'ai gratté dans le pare-brise une phrase d'un le givre, un message pour ceux qui nous trouveront. Prenez garde à l'amour qui fond. Sur une croix de chemin, j'ai gravé ton nom et le mien sous un quart de bois écaillé par le gel. Nous serons éternels et nous serons les instruments de la passion. Qu'atteint que le saint patron des amours sans espoir, suspendu à mon miroir, entende nos prières. Nous resterons immobiles dans l'automobile.
Le tombeau des rois. J'ai mon cœur au poing comme un faucon aveugle. Le taciturne oiseau pris à mes doigts, lampe gonflée de vin et de sang, je descends vers les tombeaux des rois, étonné, à peine né. Quel fil d'Ariane me mène au long des dédales sourds? L'écho des pas s'y mange à mesure. En quel songe cet enfant fut-elle liée par la cheville, pareille à une esclave fascinée? L'auteur du songe presse le fil et viennent les pas nus, un à un, comme les premières gouttes de pluie au fond du puits. Déjà l'odeur bouge en des orages gonflés, suinte sous le pas des portes, aux chambres secrètes et rondes, là où sont dressés les lits clos. L'immobile désir des gisants me tire. Je regarde avec étonnement, à même les noirs ossements, luire les pierres bleues incrustées. Quelques tragédies patiemment travaillées sur la poitrine des rois, couchées, en guise de bijoux, me sont offertes, sans larmes ni regrets. Sur une seule ligne rangée, la fumée d'encens, le gâteau de riz séché, et ma chair qui tremble, offrande rituelle et soumise. Le masque d'or sur ma face absente, des fleurs violettes en guise de prunelles. L'ombre de l'amour me maquille à petits traits précis, et cet oiseau que j'ai respire et se plaint étrangement. Un frisson long, semblable au vent qui prend, d'arbre en arbre, agite sept grands pharaons d'ébène en leurs étuis solennels et parés. Ce n'est que la profondeur de la mort qui persiste, simulant le dernier tourment, cherchant son apaisement et son éternité en un cliquetis léger de bracelet, cercle vain jeu d'ailleurs, autour de la chair sacrifiée. Avide de la source fraternelle du mal en moi, il me couche et me boive. Cette fois, je connais l'étau des eaux et la main sèche qui cherche le cœur pour le rompre. Livide et repu de songes horribles, les membres dénoués et les morts hors de moi assassinés, quel reflet d'aube s'égare ici! D'où vient donc que cet oiseau frémit et tourne vers le matin ses prunelles crevées? Le tombeau des rois, par Anne Hébert.
C'est tout pour nous cette semaine à Dans le champ lexical, Dans le champ lexical, qui est une émission de Joanie Leroux et Mathieu Charlebois. Nous ont accompagné cette semaine Lisanne Roux-Leblanc, qui nous a lu des poèmes, Pierre Duchesneau aux chansons thématiques, Nadine Mathurin à son anecdote de Curissou, Annie Rossano au Vox Pop, Sonny Duval et Pierre Lapointe, mettons, à la chanson originale et Dominique Charron à la recherche. Un gros merci à notre reporter Caroline Larocalard qui est allée rencontrer des taxidermistes. Et là, au risque de sa vie, là, elle aurait pu se faire empailler. C'est très dangereux.
Effectivement. Et on va terminer cette émission-ci avec l'une des morts les plus tristes au monde du cinéma québécois, celle de Cléo dans La Guerre des Tuques. Et l'extrait commence comme ça.
C'est quoi ça?
Ça, c'est un mur du fort qui s'est écroulé. Puis là, les enfants restent surpris et ils s'approchent tous du tas de neige. Puis là, il y en a une qui fouille un peu dans la neige puis elle crie
« Yeah! Yeah, c'est Cléo! Cléo! »
Hein? Il y a un enfant qui est pris en dessous de la neige?
C'est Cléo!
Mais non, c'est le chien. Le chien, c'est Cléo.
Ah! Cléo est morte?
Ben, techniquement, morte, c'est une chienne. Mais pas vraiment. En fait, tout ce qu'on voit, c'est une fausse tête de chien un peu mal faite avec de la neige par-dessus.
Mais là, il faut qu'ils l'enterrent.
Mais ils peuvent pas, la terre est gelée.
Pour l'enterrer? On peut pas. La terre est gelée.
On va l'enterrer dans la grange.
Dans la grange?
Oui, mais on...
On va l'enterrer. As-tu compris?
Arrêtez. Tiens, quand t'auras un autre chien,
J'en veux plus jamais de gros chiens épais comme lui.
La guerre est finie, pour le vrai.
L'amour revient de guerre, le cœur en bandoulière. Il faisait froid au loin là-bas. L'amour revient de guerre, la tête de travers, mais le cœur à l'endroit.